Bonjour et bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 septembre. Au sommaire de cette émission, on va parler de la campagne de vaccination pour les 12-17 ans qui s'organise et qui commence d'ailleurs dès demain en Mayenne. La ville de Laval et ses élus qui veulent mettre plus de nature au quotidien et notamment dans le centre-ville. Comment, quelles sont leurs idées justement, on va en parler. Et puis l'interview sera dédiée à cette résidence d'archives itinérante où vous pouvez amener vos vieux films, vos vieilles bobines pour justement enrichir ce fonds patrimonial mayennais. Ils étaient en début de semaine à Évron, ils sont aujourd'hui au garage à Château-Gontier et nous expliquerons un petit peu comment ça marche et quel est l'intérêt de ce projet. Et puis en fin d'émission, on poursuit évidemment notre feuilleton entamé lundi autour des journées du patrimoine et donc des différentes curiosités de ce week-end. Et aujourd'hui, on part direction Saint-Ouen-des-Toits pour le musée Jean Chouan. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité. Depuis ce matin, les pompiers et soignants sont soumis à l'obligation vaccinale. Pour continuer à travailler, ils doivent présenter leur passe sanitaire ou avoir au moins une dose de vaccin, sous peine d'une suspension de salaire. Une mesure qui ne passe toujours pas pour la CGT 53. Pour le syndicat, cela risque d'accentuer le manque de professionnels déjà criant dans les établissements de santé. Et puis une autre mobilisation prévue le 5 octobre par l'intersyndicale de la Mayenne. Elle exige le retrait de la réforme de l'assurance chômage et reste opposée au projet de réforme des retraites. Les syndicats demandent aussi une hausse générale des salaires et la fin des fermetures de lits et suppressions de postes dans les hôpitaux. Les indicateurs épidémiques baissent encore en Mayenne. Le département est déjà repassé en vert depuis plusieurs jours. Et selon l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, le taux d'incidence s'établit désormais à 43,6 pour 100 000 habitants. Aucun des 10 patients hospitalisés n'est pour l'instant en réanimation. Un agriculteur de 38 ans écrasé par son tracteur. L'accident s'est produit hier vers 18h à Ambert, au lieu dit Montpion. Le tracteur a fait une sortie de route et s'est retourné, coinçant son conducteur à l'intérieur. Les pompiers n'ont pas réussi à le sauver. À Laval, un nouveau Conseil des jeunes. Il sera composé de 24 membres de 15 à 20 ans qui participeront à la mise en œuvre de projets et d'actions conçus par les jeunes et pour les jeunes de la ville. Si vous êtes intéressé, vous avez jusqu'au 30 septembre pour candidater. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de la ville de Laval. Et puis dès demain, je le disais en tout début de cette émission, une nouvelle campagne de vaccination va commencer pour les 12-17 ans, enfin va être lancée en tout cas. Dans la région, ils sont 22 000 collégiens et lycéens à avoir donné leur accord déjà pour être vaccinés. Pour les moins de 16 ans, une autorisation parentale est nécessaire. L'injection aura lieu sur le temps scolaire au centre de vaccination le plus proche. On fait le point sur l'organisation en Mayenne avec Denis Valex, c'est le directeur des services de l'éducation nationale dans le département.
Ça me permet de rappeler aux parents qu'ils ne sont pas obligés d'attendre l'organisation par les établissements de voyages dédiés, on va dire, dans les centres de vaccination pour utiliser déjà sous leur propre chef les créneaux libres dans les 8 centres mayennais. On a déjà une très bonne couverture vaccinale, un très bon maillage de ces centres de vaccination. Et donc, avec la rentrée, les établissements ont redoublé d'efforts pour inciter les jeunes à avoir finalement un passe sanitaire à jour pour le 30 septembre. Je rappelle qu'il n'y a pas de passe sanitaire à l'école, mais qu'aller au cinéma, savoir s'inscrire à un club de foot, de karaté, etc., j'aurais besoin de ce passe sanitaire à partir du 30 septembre. Donc c'est l'honneur de l'école d'expliquer tout cela. On a tous besoin de renouer avec une vie sociale la plus normale possible, et donc c'est important. Et à partir du 16 septembre, il y aura effectivement, pour les jeunes qui n'auront pas eu la chance de se faire vacciner, donc soit en amont, soit pendant les vacances, soit pendant ces quelques jours, les établissements vont organiser des déplacements d'élèves vers les centres qui leur sont dédiés. Actuellement, nous sommes en train de recueillir les consentements et de mesurer le vivier des élèves qui seraient d'accord pour se faire vacciner. On avait fait des schémas avec 70% de vaccinés puis 80% de vaccinés, donc ça donnait 1500 élèves a priori, mais on sera en deçà de cela parce que justement il y a une telle couverture vaccinale et puis ça va dépendre des établissements, donc on demande à chacun des chefs d'établissement de nous faire une mesure la plus précise possible du vivier des gens restant à vacciner.
Et on rappelle que ce pass sanitaire sera obligatoire pour les 12-17 ans à partir du 30 septembre, non pas pour aller en cours, mais pour aller au restaurant, au bar ou dans d'autres lieux de loisirs. Plus de verre dans la ville, c'est l'une des promesses de campagne et l'une des volontés des élus municipaux à Laval. En cette rentrée, Florian Bercot, le maire, et son adjointe Isabelle Aymon ont présenté leur plan justement pour donner plus de place à la nature dans la ville. Une évidence pour Florian Bercot et des actions qui vont se concrétiser dès ce week-end, on l'écoute.
Évidemment, il faut assumer la nature en ville pour le bon développement de notre ville. Ça passe d'abord par valoriser le patrimoine naturel existant. C'est pour ça que le jardin de la Banque de France va être ouvert aux Lavallois aux Journées du patrimoine, qu'il y aura des balades urbaines dans les quartiers pour donner à voir les chemins piétons, la végétalisation. Et puis le deuxième axe, c'est développer, favoriser le végétal dans notre ville. Ça passe par la désimperméabilisation des sols. Donc on va désimperméabiliser le quai Paul Boudet, de la rue de la Cale jusqu'au pont d'Avenir, désimperméabiliser et végétaliser une partie de la place Jean Moulin, et puis permettre la végétalisation par les habitants. C'est la végétalisation participative, le fleurissement participatif, de manière bien sûr coordonnée et cadrée, puisqu'on ne peut pas planter dans l'espace public n'importe comment, n'importe où, à n'importe quelle saison. Et donc c'est tout ce travail-là qui va être mené là, dans les prochaines semaines et les prochains mois, en lien avec Isabelle Aymon et puis l'administration de la ville. Je crois que les images sont fortes, évidemment, des intempéries, des canicules à répétition. Mais regardez à New York, en Belgique, partout, et même proche de chez nous, au Genest-Saint-Île. Dans quelques semaines, on va inaugurer la nouvelle école du Genest-Saint-Île qui a été engloutie par les inondations. Donc le réchauffement climatique est une réalité qui est dans notre ville. Et donc ne rien faire serait suicidaire. Donc c'est pour ça que nous décidons d'agir au quotidien pour accélérer cette transformation environnementale et écologiser nos comportements, que ce soit nos comportements de consommation, de production quand on est un acteur économique, ou nos comportements en tant qu'élus politiques en écologisant nos politiques publiques. Les Lavallois nous demandent plus de nature en ville, nous demandent d'agir contre le réchauffement climatique, alors de manière transitoire, en y allant de manière incitative, et c'est toujours ce qu'on défendra, mais 45% des projets du budget participatif ont trait à la transition environnementale, ce qui montre cette attente qui est forte, qui est significative, et on accompagnera évidemment cette volonté lavalloise. Des aménagements de parcs, des désimperméabilisations de sol, des jeux en lien avec l'environnement, finalement c'est pouvoir se ressourcer en ville.
La municipalité s'est même fixé un objectif à terme, que chaque Lavallois ait accès à un espace vert dans un rayon de 500 mètres autour de chez lui. Il y a justement cette semaine une résidence d'archives itinérante pour récolter les souvenirs en film, en tout cas du patrimoine mayennais. On en parle juste après ça, on écoute Au loin les pyramides de Radio Elvis.
Des colonnes de fumée filtrent quelques lueurs. Au loin les pyramides, même si ce n'était pas l'Égypte. J'avais le regard humide de ceux dont les cris, perdus sur un île, n'atteignent au fond que les cryptes. Au loin les pyramides, le cours de mes tranquilles. Au loin les pyramides, le cours de mes tranquilles. Des colonnes de fumée filtraient quelques lueurs. Nous n'avions plus qu'à retrouver dans les cendres la somme de nos reliques, un sens aux hiéroglyphes. Mais toujours, toujours, toujours. Au loin les pyramides, le cours de mes tranquilles. Au loin les pyramides, le cours de mes tranquilles. Aujourd'hui encore, nos balances qu'ils passent. Ça va. veut nous montrer la voie de nos luttes. Et aujourd'hui encore, nos pas lorsqu'ils passent, ça veut nous laisser quelques traces de lutte. Au loin, les pyramides, le cours de nos tranquilles. Au loin, les pyramides, le cours de nos tranquilles. Au loin, les pyramides, le cours de nos tranquilles. Au loin, les pyramides, le cours de nos tranquilles.
Bien sur l'autre radio, on vient d'écouter Radio Elvis avec Au loin les pyramides. On va parler tout de suite, comme promis, de cette résidence d'archives itinérante. J'imagine que c'est un petit peu intriguant pour vous. Le principe, c'est de partager ces vieux films, ces vieilles bobines qui parfois traînent un peu au grenier. C'est ce que vous propose en tout cas Ofnibus, qui est en résidence donc toute cette semaine dans le département. C'est une première pour cette résidence d'archives itinérante, puisque je vous l'ai dit en introduction, c'est-à-dire qu'ils étaient en tout début de semaine à Évron. Aujourd'hui et demain, ils sont au garage à Château-Gontier. Et puis vendredi et samedi à Mayenne, au Grand Nord. L'objectif, c'est de rassembler en fait les fonds pour pour constituer un fonds de patrimoine filmique du département. Je vous propose d'écouter la coordinatrice du projet pour des explications complètes.
Bonjour, alors moi je suis Stéphanie Ange, je travaille à la coordination sur cette association Ofnibus, une association qui veut dire objet filmique non inventorié et le bus pour itinérance, et qui en fait part à la recherche des films amateurs, films de famille, films d'entreprise, films d'association, que vous pouvez tous avoir chez vous pour les faire revivre en les numérisant.
Vous êtes ici en Mayenne toute cette semaine. Ici, nous sommes donc au Trait d'Union à Évron. Mais j'imagine que vous avez lancé un appel aux vidéos, justement, pour tout le monde un peu en amont, c'est ça ?
C'est ça, en fait, ça fait déjà quelques mois qu'on travaille à la collecte. Donc, on a fait des petites recherches en ligne et puis on s'est rapproché des acteurs du territoire, donc dans les Couévrons, à Château-Gontier et puis à Mayenne Communauté, pour faire remonter ces films. On a déjà pris des rendez-vous. On a un peu de matière à numériser aujourd'hui à Évron. On sera mercredi et jeudi à Château-Gontier au garage, et donc venez, parce qu'on attend encore des films, on en a quelques mais on continue vraiment cet appel à collecte. Et puis on sera donc vendredi et samedi à Mayenne Communauté, donc à l'auditorium du Grand Nord, et on a déjà beaucoup de matière, mais n'hésitez pas. Surtout l'objectif, c'est vraiment de recenser cette mémoire. Donc même si sur le temps d'une semaine qui est très court, on sait qu'on numérisera pas tous les films, on travaille en partenariat avec les archives départementales de la Mayenne, qui vont prendre le relais après nous pour la conservation. Et puis notre vœu le plus cher, c'est de pouvoir revenir et pour continuer de travailler sur ce patrimoine.
C'est la première fois que vous venez ici en Mayenne. Pourquoi avoir fait ce choix ? Parce que vous faites un tour des départements et c'était le tour de la Mayenne, ou il y a quelque chose qui vous a attiré ?
On commence par la Mayenne, en fait. Donc c'est la première fois qu'on vient en Mayenne et c'est notre première résidence aussi, puisqu'en fait on a commencé à faire une cartographie du territoire français couvert plus ou moins par des cinémathèques régionales et archives audiovisuelles. Et donc, en fait, il se dessine des territoires qui sont très bien couverts, d'autres qui ne le sont pas du tout et certains qui le sont moins. Dans tous les départements, les archives départementales travaillent à la sauvegarde de ce patrimoine, mais c'est un travail de longue haleine et donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour poursuivre ce travail. Et là, on essaye de faire un coup de projecteur sur cette mémoire pour donner l'envie aux gens, aux acteurs de la conservation de poursuivre. Et surtout, ne jetez pas vos films, puisque on a remonté des traces de films qui ont déjà été numérisés par le passé et qui ensuite ont été jetés. Et malheureusement, on n'arrive pas à retrouver certaines bobines. Et on souhaite vraiment pouvoir renumériser les originaux, puisqu'aujourd'hui, on ne fait pas le même travail qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Et donc, c'est vraiment très important. Même si vous avez réussi à numériser vos films, gardez-les précieusement. Ce sont vraiment des trésors aujourd'hui.
Qu'est-ce qui peut justement vous intéresser en termes de films? Parce qu'on se dit... Peut-être certains, en tout cas, se disent « Oui, j'ai des vieux films chez moi, mais est-ce que ça pourrait vous intéresser ? Quels sont les critères, finalement ?»
Alors, on se dit très souvent hein, « C'est des films de famille, ça ne vous intéresse pas. » On l'entend tout le temps. Mais en fait, il faut savoir que dans le film de famille, on apprend beaucoup de l'histoire locale, puisque une promenade du dimanche en 1930 à l'extérieur, sur les bords de la Mayenne, ça donne un tout autre visage du paysage, des habitudes... des coutumes, de la vestimentaire qu'aujourd'hui. Donc en fait, tout ce qui est tourné à l'extérieur, je dirais, c'est intéressant. On a des choses à voir. En intérieur aussi. Alors après, ça dépend des périodes, puisque parfois des scènes d'anniversaire vont être très sombres et ça va être vraiment très centré sur la famille. Et donc peut-être qu'on voit moins de choses. Mais même, par exemple, l'arrivée de l'électroménager dans les foyers. Ça, on le voit dans les films de famille et c'est vraiment intéressant pour la suite.
Donc, beaucoup de choses, en tout cas, vous l'avez compris. Vous parliez tout à l'heure de aussi les évolutions technologiques qui permettent aujourd'hui d'avoir une meilleure qualité en numérisant. Jusqu'à quand, justement, vous pouvez remonter grâce à ces nouvelles technologies? On peut avoir aujourd'hui des films numérisés qui datent originellement de quelle date?
Et ben en fait, des débuts du cinéma, et pour nous, plus des débuts du cinéma amateur. Donc en fait, on a de la pellicule dès 1895 et même un petit peu avant sur les formats qu'on dit plus professionnels, puisque c'était des matériaux coûteux, le 35 mm, avant ça le 55 mm. Et aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui n'a pas eu de vie en salle de cinéma. C'est vraiment les films qui ont pu être tournés par les acteurs locaux. Et pour ces films, on remonte donc au début des années 20, avec le format 9.5 et le format 16 mm, 1923-1924, jusqu'au fichier numérique des années 2000, qui peuvent nécessiter un réencodage, que les gens ne peuvent parfois plus lire. Donc voilà, format film-pellicule. 8, Super 8, 9, 5, 16, format vidéo, VHS, U-matic, HI-8 et beaucoup d'autres, et puis format numérique.
Là, justement, on le voit, ici au Trait d'Union, vous êtes en train de vous installer, il y a différentes machines, elles permettent quoi ?
Alors, il y a beaucoup de machines, effectivement. Donc, vous avez des visionneuses, les visionneuses qui permettent de revoir les films sans les passer dans un projecteur. Donc, comme ça, on n'endommage pas le film. Donc là, je vous parle pour tout ce qui est pellicule. Donc, on a visionneuse tout format. On a des magnétos pour pouvoir visionner la vidéo. On a beaucoup d'ordinateurs pour pouvoir regarder tout ce qui est en numérique. Et puis, on a un scanner film et puis on a une régie vidéo pour pouvoir numériser. Donc, le scanner pour tout ce qui est film et la régie pour tout ce qui est vidéo.
Et donc, entre le moment où on vous apporte le film et la numérisation, ça peut prendre combien de temps? Parce qu'on se doute que ça ne se fait pas en un claquement de doigts.
Et ben c'est pour ça qu'il faut nous appeler, ça nous aide pour s'organiser, puisqu'en fait, on fixe des rendez-vous avec les gens. Après, les gens qui viendront comme ça, au hasard de la découverte de notre mission, seront les bienvenus, évidemment. Mais effectivement, il y aura peut-être un petit temps de latence. On est 2 jours sur chaque territoire, donc on peut se permettre de prendre un petit peu de temps pour rendre les supports aux déposants, donc en fin de journée avant de partir. Et puis surtout, de dresser l'inventaire, de voir ce qu'on numérise sur place, choisir un échantillon, le traiter immédiatement. Les gens repartent avec la clé USB. Et puis, de bien noter pour la suite, vous avez voilà, des fonds très intéressants, il faut qu'on poursuive l'action par la suite.
L'idée en tout cas, c'est ce que vous avez déjà esquissé, c'est en tout cas que ça serve pour mieux comprendre et mieux se souvenir de toutes les habitudes et tout ce qu'on pourrait appeler la petite histoire, le quotidien en tout cas des habitants, c'est ça l'objectif ?
C'est bien ça, ce sont les petites histoires qui font la grande histoire. Et donc, on essaye de mettre à disposition ce patrimoine. Les gens ont les bobines, ne peuvent pas forcément les voir. Là, on redonne des fichiers numériques. On appelle à les déposants à pouvoir aller déposer ces films aux archives départementales, vraiment. On les encourage fortement. Et puis, par la suite, on crée donc cette nouvelle mémoire, ce patrimoine donc numérique, pour que d'autres puissent ensuite y avoir accès, des chercheurs, des réalisateurs, des producteurs qui souhaitent s'emparer de cette matière pour lui faire redonner sens aujourd'hui.
On a compris qu'on peut encore évidemment venir vous voir et venir apporter les films qu'on a tout au long de cette semaine, mais vous en avez déjà récolté pas mal, et notamment certains. Est-ce qu'on peut justement avoir quelques exemples des petites pépites que vous avez déjà récoltées ?
Oui, alors pour le moment, donc par exemple sur Évron, sur les coups Évron, on va avoir des films autour de Blandoué. On a des scènes de chasse dans les années 60. On va avoir des films donc en vidéo sur un instituteur de B qui a filmé ses classe et puis l'activité à B. On va avoir d'autres films. Nous aussi, on apporte déjà de la matière. On a déjà un montage de 25 minutes qu'on a pu réaliser grâce aux cinémathèques qui sont partenaires et qui travaillent avec nous, la Cinémathèque de Bretagne, Normandie Images et Cyclique en région Centre-Val de Loire, qui chacune, dans leur collection, et on en a trouvé d'autres dans d'autres structures, mais on a fait ce choix, chacune avait des images de la Mayenne. Et donc, on a pu ramener un mariage à Laval en 1929, la Charbonnière de l'Ouest aussi à Laval en 1958. Donc là, un film de publicitaire, en fait, sur la Charbonnière, qui est véritablement intéressant. On a des images de Mêlée du Maine, du camp d'internement en 1939-1940, qui sont à découvrir. On a des vacances en Mayenne autour de Javron-les-Chapelles en 1937. Voilà, on a de magnifiques scènes de battage à Argenton-Notre-Dame. Et puis, la visite de Gaulle à Rouen en 1965, des images de cerclage de roues à Bourgneuf-la-Forêt en 1954, qui nous ont été transmises là récemment par Monsieur Guichenet, donc du territoire, qui vient aussi nous présenter ses films sur le temps de cette résidence. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on apporte. Et puis, pour les fonds collectés, on a les images du diocèse de Laval qu'on doit aller chercher cet après-midi pour les numériser, donc avec sans doute des films sur des processions dans les Couévrons. Et on va s'attacher aussi à essayer de numériser une grande partie du fond de la chapelle au Riboul, donc près de Mayenne, puisqu'il y avait un cinéma qui s'appelait le Family Cinéma, qui a été donc redécouvert par la compagnie O et Olivier Hédin. Et donc dans ce cinéma, un fond de film incroyable était encore présent, et l'objectif, c'est de l'inventorier et d'essayer d'en numériser une partie.
C'est vrai que là, on le voit, il y a vraiment tout type de vidéos, en tout cas, que vous avez pu déjà retrouver. Est-ce que parfois, c'est difficile d'identifier la période ou les personnages qu'on peut voir, ou vraiment des éléments de contexte qui peuvent vous manquer. Comment est-ce que vous travaillez dans ces cas-là ?
Donc, tout à fait. C'est ce qui va être le plus dur pour nous. On n'est pas mayennais du tout. On connaît la mémoire audiovisuelle, mais on ne connaît pas votre patrimoine ni ces images. C'est pour ça qu'on appelle aussi les gens donc, à venir nous rencontrer pour faire des ateliers documentaux ensemble, pour essayer d'identifier les lieux. Alors, sur la datation, nous, on a un petit peu plus de savoir-faire, puisque en identifiant la pellicule, on peut aussi dater beaucoup de choses. Mais après, oui, c'est vraiment les gens qui vont nous apporter cette mémoire. On va aussi rencontrer des résidents en EHPAD pour proposer ces ateliers documentaux ensemble et pour pouvoir enregistrer leur mémoire. Et cet après-midi, à Évron, à 14h, ici au Trait d'Union, on attend donc le public pour un atelier de captation de témoignages. Tous ceux qui le souhaitent sont les bienvenus pour apporter leur témoignage sur la mémoire locale.
C'est justement ce que j'allais vous demander, là très concrètement, le programme de cette semaine, à quel moment est-ce qu'on peut venir vous voir ? Est-ce qu'il y a d'autres ateliers comme celui cet après-midi à Évron ?
Alors, donc, on peut venir nous voir à tout moment, on vous accueille vraiment chaleureusement, puisque l'objectif, comme je le disais, c'est vraiment d'inventorier tout ce qui existe sur le territoire, donc toutes les venues sont les bienvenues. Le grand public également, pour voir ce qu'on fait sur place. Et on cherche aussi à sensibiliser donc, à cette mémoire audiovisuelle. Pour le programme, donc, on est sur place entre 10h et 17h dans les différents lieux avec une petite pause pour déjeuner quand même. Et puis voilà, et donc on propose donc cet atelier à Évron aujourd'hui. Ce sera le seul atelier grand public, puisque à Château-Gontier, on accueille une classe de 5e art de la scène pour un atelier plus spécifique. Et puis donc à Mayenne Communauté, on n'aura pas le temps de faire un atelier comme on est pris à la chapelle Auriboul pendant une demi-journée. On ne pourra pas en proposer davantage. Donc, mais par contre, voilà, les gens sont les bienvenus sur les temps d'ouverture des lieux dans lesquels on s'installe au fil de la journée. Et donc en soirée, à chaque deuxième jour en fait de résidence dans les trois communautés de communes dans lesquelles on passe, on a un artiste du territoire qui vient redonner vie à ces images. Jeudi 16 au Rex à Château-Gontier, c'est Jésabelle Coguillec qui viendra faire revivre aussi ces images. Et au cinéma Le Vox à Mayenne, samedi à 20h toujours, ce sera Sophie Anoto de la compagnie Les Presque Siamoises qui viendra donc aussi mettre du son et de la parole sur ces images très souvent muettes.
Faut pas hésiter à venir vous voir, là aussi on l'a bien compris. Vous disiez aussi que c'est votre toute première résidence et tout court et ici en Mayenne. Par la suite, qu'est-ce qui va en être fait de tous ces films et comment est-ce que vous comptez développer ce projet ?
Donc c'est notre toute première résidence en effet pour Ofnibus, mais donc on a 10 ans d'expérience dans l'archive audiovisuelle et on est entouré d'un grand réseau de cinémathèques régionales sur lequel on peut vraiment s'appuyer pour qu'ils nous orientent dans notre travail pour la suite. Et puis localement, ce sont les archives départementales à Laval qui vont prendre le relais pour la conservation des films. Tout ce qui va être numérisé aujourd'hui et sur la semaine à venir et tout ce qui va être inventorié surtout va remonter jusqu'aux archives départementales pour qu'ils soient au fait de tout ce qu'on aura pu trouver. Laisser ces films au garage ou au grenier avec des changements de température ou d'humidité assez forts, c'est vraiment pas bon pour eux. Donc il vaut mieux les déposer dans une institution. C'est mieux pour eux et pour nous et pour la mémoire locale. Et puis donc par la suite, donc je vous disais qu'on souhaiterait revenir sur 2022, reproposer quelque chose en Pays de la Loire et à Mayenne pour dans le département de la Mayenne pour poursuivre. Et puis nous, on a une deuxième résidence à venir fin octobre entre Loire et Rhône en partenariat avec la Cinémathèque de Saint-Étienne pour collecter dans un territoire qui a été peu collecté également.
Comme en Mayenne, vous l'avez bien compris. Et si vous voulez déposer vos propres films ou en tout cas les contacter, prendre un rendez-vous, vous pouvez le faire au 06 08 83 04 67. Et toutes les coordonnées sont disponibles évidemment aussi sur leur site internet ofnibus.fr. On fait une petite pause musicale avec Gush Back Home et on revient tout de suite après.
A Monday ferry boat, we're coming back, we're on our way. On Sunday after blue, yeah, we only been there for the two. On Saturday on the cocoa, I've got a gig, I got myself a bag.
Chat, we're back on the track. Wow. It's getting out of control, baby.
Back Home de Gush que vous venez d'entendre sur l'autre radio, évidemment. Et puis on poursuit notre feuilleton autour des journées du patrimoine qui s'approchent à grands pas. Et notre troisième épisode aujourd'hui consacré au musée Jean Chouan à Saint-Ouen-des-Toits, l'occasion de mieux se rendre compte du quotidien des paysans mayennais à cette époque-là, c'est-à-dire fin du XVIIIe siècle, début XIXe, et puis de découvrir aussi ce qui s'est passé ici en Mayenne en cette période tumultueuse de la Révolution. Je vous laisse écouter le président, le coprésident du musée Jean Chouan.
Denis Messager, je suis coprésident de l'association des amis du musée Jean Chouan à Saint-Ouen-des-Toits. Ce musée Jean Chouan est installé dans la closerie des Poiriers à Saint-Ouen-des-Toits. C'est une ferme, je dirais, comme elle n'en existait à des milliers en Mayenne au XVIIIe siècle. C'était un petit bâtiment composé, je dirais, d'une pièce principale, de la chambre pour la coucher et puis d'une étable. À l'époque, c'était ça. Alors, il y a un bâtiment à côté qui est plus récent, qui sert de musée, je dirais, de salle de... Un petit peu pour les visiteurs, pour leur expliquer ce qu'a été un peu cette période un peu mouvementée. En 1793, les Vendéens, qui sont révoltés pour les mêmes causes que les Chouans, mais qui sont beaucoup plus nombreux, traversent la Loire parce qu'ils sont battus à Cholet et viennent se réfugier en Mayenne, où ils sont rejoints par les Chouans. Et la bataille d'Entrammes, je dirais, a lieu donc en 1793 entre les Chouans, les Vendéens et puis les révolutionnaires. Et ce sont pour une fois les Vendéens qui ont le dessus, pour une fois, parce que ça va se terminer tragiquement pour eux quelques mois plus tard. Par contre, ça va permettre de la chouannerie de se développer. La chouannerie démarre en Mayenne tout simplement parce que le premier chef en Chouan en Mayenne, ça a été Jean Cotreau, qui était surnommé Jean Chouan comme tous les gens de sa famille. Et avec un surnom aussi, je dirais, médiatique, si vous me permettez l'expression, je dirais, il a été très vite repéré. Et le premier chef, donc, des Chouans entre Laval et Vitré. La terreur en Mayenne, en 1794, c'est pendant presque un an, je dirais, plus de 600 personnes guillotinées en Mayenne. Les gens ont du mal à imaginer un tel chiffre. 600 personnes guillotinées en représailles, ce sont des dizaines de patriotes dans les communes, c'est-à-dire les maires, les officiers municipaux, les juges de paix, qui sont assassinés par les Chouans en représailles. Jean Chouan, qui est né dans la forêt de Concise et non pas ici parce que son père était sabotier, et ses parents héritent de cette closerie-là vers 1760 parce que c'était la propriété des parents de la mère de Jean Chouan. Donc la famille vient s'installer ici vers 1760 et la famille reste propriétaire de ces bâtiments jusqu'en 1846 à la mort de René, qui est le dernier des frères de Jean Chouan qui est décédé ici.
Pourquoi cette passion pour Jean Chouan, puisque vous avez fait donc plus de 10 ans de recherche pour ce livre et ce musée, vous y êtes impliqué depuis le début?
Pour une raison très, très chauvine, je dirais que je suis né à Saint-Ouen d'une part, et d'autre part, j'ai des cousins qui ont vécu dans cette maison. C'est pour moi des souvenirs familiaux. Et puis, tant gamin, je dirais, Jean Chouan, c'était les héros. Même si on ne savait pas beaucoup de choses sur son histoire, c'était un petit peu le héros de la commune. Un personnage aussi légendaire qui s'est battu, je dirais, qui a fait de la contrebande, qui est mort dans le bois de Misdon, c'est déjà dans des conditions un peu mystérieuses. Sa tombe, personne ne sait où il est. Donc, pour des enfants, c'est très parlant, quoi.
Et j'imagine que ce sera parlant pour vous aussi si vous vous rendez ce week-end au musée Jean Chouan. Lors de ces portes ouvertes, vous pourrez acheter le pain cuit dans le four du musée, évidemment visiter les lieux et bénéficier de toutes les infos et anecdotes données par les bénévoles de l'association, ou encore participer à la lecture théâtralisée de Gilles Rabe, Jean Chouan raconté par son frère, c'est son nom. Attention par contre, la lecture théâtralisée est sur inscription. Vous pouvez vous inscrire donc par mail à l'adresse musée.jeanchouan@laposte.net. Merci en tout cas d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout, puisque ça y est, c'est la fin de la JT du local pour aujourd'hui, mercredi. À suivre à l'antenne à 19h, il y aura Novorama, suivi à 21h de Chaosphère, avec ce soir une immersion à l'Exit Festival de Novi Sad, c'est en Serbie, que je vous laisse donc découvrir. Et puis évidemment, pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à demain.